Grand Dialogue
Sigika Foba
et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halou Dmaouni.
Chenni Biri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les thèmes que nous allons débattre aujourd'hui autour de cette grande thématique de la surpopulation carcérale. Les trois thèmes donc, les faiblesses du système judiciaire, les règles de détention et la réinsertion. Faut-il renforcer la politique carcérale au Mali? C'est donc les trois thèmes de ce débat. Le débat qui sera animé par moi-même, Famoussa Sidibé, assisté à la technique par Sedumbo. Et nos invités sont Maître Mokhtar Mariko, président de l'association malienne des droits de l'homme, Issa Karunga Keïta du Conseil national des droits de l'homme, Moussa Sarawi Maïga, directeur national du centre de détention et de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bolé, et Moussa et El Béchir Singaré d'Amnesty International. Il est impératif, selon les organisations maliennes des droits de l'homme, d'améliorer les conditions carcérales et afin d'humaniser les lieux de privation de liberté. Premier problème, la surpopulation carcérale. Les associations maliennes des droits de l'homme prennent l'exemple flagrant de la maison de centrale d'arrêt de Bamako qui accueille plus de 1800 détenus pour une capacité initiale de 400 personnes. Une cellule prévue pour 50 détenus renferme aujourd'hui près de 100 personnes, notent les défenseurs de droits de l'homme. Alors, nous avons en ligne Maître Mokhtar Mariko. Maître, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous confirmez ces informations?
Oui, cette information est une réalité parce que nous l'avons fait avec une trentaine d'organisations de la société civile, avec la CNDH qui est la Commission nationale des droits de l'homme. Il y avait aussi la MINUSMA et beaucoup d'autres organisations. Donc, cette visite a été organisée par ces organisations et nous avons rencontré les surveillants de prison qui nous ont accompagnés et tout s'est déroulé devant eux. Nous ne falsifions pas de chiffres. Nous avons constaté ce que nous avons vu. Il y a plus de 1891 détenus à la maison d'arrêt central de Bamako. Et imaginez-vous, ceux qui sont en détention provisoire sont 1021 qui sont là à attendre d'être jugés. Donc, après ça, nous avons vu les conditions carcérales. Nous avons vu les chambres dans lesquelles dorment ces prisonniers. Ils vivent dans des conditions inhumaines et dégradantes. Nous avons aussi vu que la nourriture ne vaut absolument rien à la prison. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins. Vraiment, les prisons maliennes, on peut les appeler, excusez-moi, comme des mouroirs.
Merci beaucoup, Maître Mariko. Vous restez avec nous. Vous êtes le président de l'Association malienne des droits de l'homme. Je me tourne vers El Béchir Singaré d'Amnesty International. Monsieur Singaré, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce que vient de dire Maître Mariko?
Bien, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter puisque j'ai assisté à la même chose parce que c'était la semaine des droits humains célébrée par la CNDH et il y avait beaucoup d'organisations qui participaient à ça. Donc j'étais dans l'équipe qui était allée à Bolé Femmes. Et avant ça, moi j'ai l'habitude de visiter les prisons, donc s'il n'en a pas oublié, bon, il n'a rien dit qui n'est pas vrai. C'est de la réalité.
D'accord. Alors, je signale l'entrée dans ce studio de Moussa Sarawi Maïga, directeur du centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bolé. Alors, monsieur Maïga, Issa Karunga Maïga, du Conseil national des droits de l'homme, vous avez sorti un rapport justement sur l'ensemble de ce qu'on peut appeler des conditions de vie de ces prisonniers dont on parle aujourd'hui. Quelle est votre vision de la situation?
Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par dire que vous allez payer des colas, puisque moi je ne suis pas à Maïga, c'est Issa Karunga Keïta.
Keïta.
Voilà, donc.
Je retiens.
Et c'est la Commission nationale des droits de l'homme, et non le Conseil national des droits de l'homme.
Commission nationale.
Oui. Donc, je suis là aujourd'hui en tant que représentant de Maître Khadija Sangaré Koulibaly. présidente de la Commission nationale des droits de l'homme,
d'accord,
qui avait voulu personnellement être là aujourd'hui avec vous, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas pu faire le déplacement. Voilà, comme mon très cher président, Maître Marico, l'a dit, voilà, c'est un constat général. Et nous sommes un peu focalisés sur le cas du cercle de Kangaba. Vraiment, nous, dans le cadre de la Semaine des droits de l'homme, nous avons effectué aussi, comme il a dit, des visites dans l'ensemble des régions, surtout les capitales régionales, les capitales des différentes régions du Mali. Mais nous avons voulu vraiment cette fois-ci aller au niveau des cercles pour nous acquérir de l'état des détentions. Et vraiment, comme la présidente l'a dit l'autre jour sur l'ORTM, la situation de la prison de Kangaba est préoccupante. Et si on ne fait rien, vraiment, nous allons vers sûrement des crises vraiment qui peuvent être très préjudiciables à l'image de notre pays.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Keïta. Moussa Sarawi Maïga, je rappelle, est dans ce studio, directeur du Centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bolé. Alors, Monsieur Maïga, nous allons un peu vous prendre au dépourvu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir combien de prisons y a-t-il au Mali?
Ok, bonjour ou bonsoir, selon le temps qu'il fait. Je vais d'abord profiter de ce micro pour remercier l'ensemble de votre équipe, remercier encore, je dirais, nos partenaires des droits de l'homme et des droits humains de façon générale pour avoir accepté et organisé, n'est-ce pas, ce débat de façon constructive et scientifique, n'est-ce pas, qui pour nous a un seul objectif, c'est l'amélioration des conditions de détention dans nos prisons. C'est l'image des droits dans nos prisons, c'est peut-être aussi l'image de notre pays à l'extérieur et chez nous-mêmes. Ceci étant, nous avons plusieurs sortes en réalité d'établissements pénitentiaires. Parce que, comme on le dit, on parle de l'administration pénitentiaire, mais il y a des statuts différents. Dans un premier temps, on peut parler de ce qu'on peut appeler les maisons d'arrêt et de correction, et qui, comme vous le savez, s'occupent pratiquement de la prise en charge entre guillemets, des hommes adultes qui sont un peu éparpillés dans la République. Et ensuite, nous avons ce qu'on peut appeler les pénitenciers agricoles en République du Mali. En dehors de ceci, nous avons d'autres structures qu'on appelle les structures spécialisées de détention, de rééducation et de réinsertion, ou tout simplement les structures spécialisées, parce que ces structures là visent la prise en charge au niveau de l'administration pénitentiaire de groupes cibles, tels que les femmes, tels que les mineurs. Donc je vais dire qu'il y a deux structures spécialisées en tant que telles qui existent et qui sont opérationnelles. Mais en dehors de ces différentes structures d'établissement pénitentiaire, il y a d'autres qui en réalité, n'est-ce pas, ont connu une création dans leurs textes, dans les textes particulièrement. Il s'agit des centres professionnels et il s'agit aussi des centres d'observation dans chaque capitale régionale. Les deux derniers, comme on le dit, ne sont pas encore opérationnels, même si encore la législation existe. Voilà, grosso modo, voilà ce que je peux dire par ce qu'on peut appeler structure de l'administration pénitentiaire à la République du Mali.
D'accord. Alors, nous allons tout de suite voir ensemble les faiblesses aujourd'hui du système judiciaire et les difficultés que l'administration pénitentiaire rencontre au quotidien. Il y a un fait majeur qui ressort de la part des observateurs et ce fait est évoqué par Maître Brema Kone, ancien président de l'Association malienne des droits de l'homme. Nous l'écoutons.
Les mauvaises pratiques qui persistent encore au niveau de cette prison, notamment qui sont le fait aussi de certains agents, des gardiens de prison, qui se livrent à toutes sortes de spéculations autour des prisonniers, notamment le fait de prendre de l'argent avec des citoyens sans aucun contrôle rigoureux et les laisser accéder librement au centre de détention. Alors qu'au préalable, il fallait quand même un permis de communiquer délivré par un juge ou alors par le procureur. Malheureusement, on assiste à de telles scènes, moyennant quelques billets d'argent, des prisonniers dangereux qui sont laissés mutamment libres pour aller passer la nuit en ville et qui reviennent passer la journée à la maison d'arrêt. Et pendant ce temps d'absence de la prison, de commettre autre chose. Pour vous dire que le système carcéral malien souffrent aujourd'hui de tous ces problèmes et qu'il faut aujourd'hui régler dans le meilleur délai possible.
Alors, Maître Mokhtar Mariko, vous êtes le président actuel de l'Association malienne des droits de l'homme. Vous venez d'entendre Brema Kone, votre ancien président. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces mauvaises pratiques que l'on voit dans les prisons du Mali?
Oui, c'est ce qu'on dit. Hein. Les mauvaises habitudes ont la vie dure. Ce que Maître Brema Kone vient de dire, c'est une réalité que nous avons vécue. Parce qu'on était ensemble, j'étais dans son équipe avant que je ne devienne président. Il y a aussi des pratiques telles que les droits de chambre. C'est-à-dire quand on vous place sous mandat de dépôt et que vous n'avez rien en poche, soyez sûr que vous n'allez pas dormir ce jour-là. Donc ça, c'est des pratiques qui se font à l'intérieur de la prison et qu'il est difficile de vérifier. Seuls les prisonniers nous renseignent sur ce qui se passe dans les prisons. Et indépendamment de ça, il y a aussi le fait d'avoir accès au téléphone. Et tout ça est conditionné par de l'argent. Donc c'est pour vous dire que ce que Maître Brema Kone vient de peindre, ça c'est la réalité de nos prisons.
Alors, nous avons quelqu'un qui a un œil averti sur une des prisons du Mali. C'est bien le directeur du centre de détention de réinsertion pour mineurs de Bolé, Monsieur Maïga. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces différentes pratiques?
Donc, merci. J'ai pu écouter évidemment avec à la limite émotion. Hein, quand il s'agit de l'extrémité de ces actions que vient de dénoncer Maître Kone, que je connais bien, et l'actuel président de l'AMDH. Bon, je crois qu'il faut relativiser les choses. D'abord, par rapport à Maître Kone, cette déclaration, je sais qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, de cette déclaration à aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Je ne suis pas là pour faire, si vous voulez, je ne sais pas, la défense de qui que ce soit, parce que comme Maître Kone et l'actuel président aussi de l'AMDH, j'ai un devoir de père, j'ai un devoir de cadre. Je suis certainement fonctionnaire, mais pour qui connaît ce que peut être l'enfant pour la nation et pour la famille, c'est la prunelle de nos yeux. En tout cas, pour ce qui concerne le centre de détention
pour mineurs,
nous pensons que, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, c'est des pratiques générales, nous pensons qu'aujourd'hui, je le dis, beaucoup de choses ont évolué. Si quelquefois, les gens ont remarqué des pratiques de ce genre, bon, il faut les regretter, il faut peut-être les regretter, mais ça ne répond pas, en tout cas, ces pratiques-là ne répondent pas à la volonté politique aujourd'hui et même hier, en tout cas, qu'on est dans toute société, j'allais dire dans toute organisation, on peut citer certainement des pervers de ce genre-là, mais vouloir les ériger en système de gestion administrative pénitentiaire, je pense que c'est de trop qu'il faut relativiser. Oui, aucune structure n'est parfaite. Aucune gestion en tant que telle, n'est-ce pas, n'est parfaite. Mais nous pensons, nous avons connaissance effectivement qu'il y a des insuffisances et la volonté politique et administrative existe au sein de pouvoir corriger l'ensemble de ces pervers, que ce soit la prise en charge individuelle ou globale, que ce soit la prise en charge judiciaire de l'ensemble de notre population carcérale.
Alors, Monsieur le Directeur, on a connaissance de certaines difficultés que vous vivez au quotidien. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous êtes entendu lorsqu'il s'agit de plaider pour l'amélioration des conditions des travailleurs de l'administration pénitentiaire?
D'abord, ce qu'il faut féliciter et encourager, peut-être, parce que, quels que soient nos textes, quels que soient tout ce que nous pourrons inventer et notre génie, si la volonté politique ne suit pas, on ne pourra pas avancer. Je le dis à haute voix qu'aujourd'hui, et même en tout cas dans une date beaucoup plus récente, les quelques dernières années que j'ai vues, parce que j'étais stagiaire avant de revenir dans cette maison-là, et j'ai pu comprendre que les choses ont évolué et qu'il y a vraiment une volonté politique de pouvoir améliorer les choses. Quand on y venait, quand moi j'y venais, pratiquement la ration alimentaire elle était dérisoire. Et aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir les trois pas essentiels. Et s'il y a des problèmes, c'est peut-être des problèmes de gestion individuelle. Et aujourd'hui encore, nos portes sont ouvertes. Avant, il n'était pas facile d'avoir accès à nos prisons. Mais je crois à nos partenaires des droits de l'homme peuvent témoigner, ils rentrent, ils y sortent comme ils veulent. La volonté politique y est pour ne rien cacher. Ça veut dire que nous avons la volonté politique d'améliorer les conditions de détention, mais aussi nous avons nos difficultés.
D'accord.
Et qui sont certainement liées à des problèmes logistiques et des problèmes de moyens.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous allons passer quelques secondes en pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de l'émission.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur les différentes radios partenaires du Studio Tamani. Nous parlons aujourd'hui dans le grand dialogue d'aujourd'hui de la surpopulation carcérale. Et avec moi pour débattre de cette thématique, nos invités, d'abord au téléphone, Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme, Issa Karunga Keita de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons également Moussa Sarawi Maïga, directeur du Centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bolé, et El Béchir Sengaré d'Amnesty International. Alors, cette deuxième partie donc est consacrée aux règles de détention et à la réinsertion dans les prisons du Mali. La réinsertion est un défi majeur au sein des prisons de façon générale. Alors, quelles sont les particularités maliennes? Voici une tentative de réponse de Cheikh Oumar Diallo, qui est politologue et qui est un habitué du Studio Tamani.
Je pense que nous avons un décalage énorme qui existe, notamment si on le prend dans les grandes agglomérations comme Bamako, un décalage qui existe entre les bandits de grand chemin et les terroristes, mais aussi ceux qui sont en attente de jugement. Il y a presque un mélange des genres qui fait que tous ceux qui se retrouvent dans cet univers carcéral ne sont pas forcément encouragés à se réinsérer dans la société dans des conditions acceptables.
Alors, El Béchir, vous êtes d'Amnesty International. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la réinsertion et quelles sont les actions que vous menez à Amnesty International pour favoriser la réinsertion des prisonniers dont nous parlons?
Bien. Je tiens d'abord à saluer Maître Koné et Maître Mariko et M. Maïga qui nous a rejoints. On se connaît très bien parce qu'on s'est vu à plusieurs reprises dans le cadre des visites de prison. Et je me rappelle une fois que à l'issue de la visite à Bolé mineur, j'ai vu un directeur qui était soucieux de ce problème-là.
De réinsertion.
Oui, de réinsertion. Il m'a même dit que normalement, les textes qui existent doivent être revus. Et il a posé un problème qui est réel. Quand vous commencez à former quelqu'un pour la soudure, bon, ces mineurs-là, 6 mois, ils vont à la maison. Il est très très difficile, quand la formation a continué et qu'entre-temps ils sont libérés, de les ramener pour continuer leur formation. Donc le problème se pose. Donc ça a été ce que j'ai
une des
retenu.
Recommandations.
Ouais, j'ai été réellement marqué par cette observation du directeur. Donc ça se pose avec acuité. Et c'est un problème qui n'est pas seulement, malien. Et même les pays comme la France ont ce souci. Parce que la réinsertion, ça suppose quoi? C'est pour éviter les cas de récidive. Vous voyez? Donc, la France est en train de faire beaucoup d'imagination, mais chaque chose a ses limites. Bon, le Mali, il est très très difficile de parler de cela sans réfléchir d'abord sur les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour le faire, ensuite la manière
de le faire.
Parce qu'il y a les moyens. Il y a la manière de le faire, vous voyez. Donc, tout ce qui est essentiel, c'est de pouvoir suivre quelqu'un qui avait entamé une formation professionnelle, peut-être lors de sa détention, le suivre pour qu'il puisse continuer. Même l'autre jour, les responsables de Bolé Femmes ont parlé de cela, les mineurs, les jeunes filles, Ouais. Et qu'il y a lieu de réfléchir sur la création d'une structure, n'est-ce pas, qui puisse recueillir, n'est-ce pas, ces mineurs lorsqu'ils sortent de
prison.
C'est ça.
D'accord.
Ouais, ça, c'est fondamental.
D'accord. Alors, l'avis de la Commission nationale des droits de l'homme, représentée ici par Issa Karunga Keïta.
Oui. Bon, là, je dirais que nous sommes d'abord le mécanisme national de prévention de la torture du Mali. À ce titre, notre organisation, notre structure se focalise beaucoup plus sur la protection des droits des détenus. Bon, en ce qui concerne quand même les activités qu'on puisse offrir aux détenus après leur détention, je pense que ça, c'est un vide. Et je pense que c'est un problème qu'il faut souligner avec acuité, dans la mesure où nous voyons, dès que les détenus sortent, ou du moins parviennent à épuiser leur peine, il y en a beaucoup qui récidivent. Parce qu'il n'y a pas d'autre activité, il n'y a pas une activité qui est proposée, proprement dite, qui peut leur permettre vraiment d'apprendre un métier, de se former et puis d'apprendre à réorganiser leur vie. Et sur ce point, je voudrais remercier quand même la politique qui est au niveau de Boulé, Boulé Femmes et Boulé Mineurs, qui offre des activités culturelles, des formations aux femmes. Maintenant, quitte au gouvernement et même les ONG maintenant de mettre en place des projets, des politiques,
de suivi, pour,
voilà, de suivi, et surtout d'encouragement de ces détenus. J'avoue que certains détenus parviennent à avoir des capacités pertinentes hein, dans les métiers qu'ils apprennent ou même qu'elles apprennent au niveau des centres de détention. Mais c'est un problème qui est posé à l'ensemble de la communauté des défenseurs des droits humains, parce que nous, ce que moi personnellement j'ai constaté, nous focalisons seulement à promouvoir les droits des détenus. Voilà. Et je me dis que la prison même, ce n'est pas le souhait des autorités. On aimerait avoir autre chose que la prison.
Avoir une autre alternative.
Voilà.
Alors, Maître Mokhtar Mariko, nous nous tournons vers vous. Vous êtes le président de l'Association malienne des droits de l'homme. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner une vue d'ensemble sur cette prison, sur cette maison d'arrêt centrale de Bamako? Si je ne m'abuse, les activités de réinsertion sont assez mineures dans cette maison d'arrêt. Quel est votre avis sur cet aspect de la maison d'arrêt?
Bon, moi, mon avis est très simple là-dessus. Hein. Je rejoins d'abord dans les commentaires mes prédécesseurs El Béchir et puis mon jeune frère Issa Karunga, qui a fait une très belle analyse de la situation. Ce que nous avons aussi notre part de responsabilité dans cette réinsertion. Effectivement, nous sommes, depuis la création de nos associations, focalisées sur la protection et la défense des droits des détenus. Mais par ailleurs, qu'est-ce que nous devrons envisager? C'est de voir à leur sortie qu'est-ce qu'ils ont appris à la prison et comment faire pour les suivre. Nous sommes tous fautifs là-dessus. Deuxièmement, le second problème, c'est quoi? C'est qu'on parle de réforme de la justice, mais la réforme de la justice s'arrête toujours au niveau des tribunaux. Or, le terminus, c'est la prison. La prison est toujours oubliée dans les réformes de la justice. Je ne sais pas si M. Maïga, si les réformes là s'étendent maintenant, comment on appelle, à Boulé et aux autres maisons d'arrêt. Sinon, en réalité, on fait les réformes de la justice et on oublie carrément les prisons. Alors que les prisons doivent faire partie intégrante de cette réforme de notre justice. Donc, pour me résumer, nous sommes tous fautifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes en train d'étudier beaucoup de projets à notre niveau pour voir comment il faut suivre les détenus mineurs, les détenus femmes de Boulé et les détenus en général. Mais je répète encore, nous avons notre responsabilité dans tout ce qui se passe dans les prisons pour que ces prisonniers-là évitent la récidive. Mais malheureusement, on ne fait absolument rien. C'est là que nous péchons.
Alors, merci beaucoup, Maître Mokhtar Mariko. Maître vient de dénumérer un certain nombre de schémas à scruter, un certain nombre d'horizons à voir pour mieux prévoir l'avenir. Monsieur le directeur Moussa Sarawi Maïga, vous êtes le directeur du centre de détention pour mineurs de Bolé. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous énumérer le nombre de programmes que vous avez dans ce centre-là et peut-être dans le centre pour femmes aussi qui puisse faciliter aujourd'hui la réinsertion des personnes détenues dans ces différents centres?
Merci beaucoup. Je suis heureux, n'est-ce pas, de constater avec M. Mariko qu'effectivement, en plus de ce que nous-mêmes nous pensons en tant que praticiens, au niveau de notre département qui est le ministère de la Justice, c'est vrai que l'administration pénitentiaire est laissée pour compte. Il faut le dire sans embâche. Et à chaque fois qu'il y a des réformes, c'est peut-être dans la tête du magistrat, vous m'excusez un peu du terme, on ne voit que ce collectif-là. Et malheureusement, on ne peut pas imaginer une justice sans prison, comme on ne pourrait aussi imaginer une justice sans magistrat. C'est aussi des failles. Je pense que dans la dernière réforme qui est en cours, cette fois-ci, nous avons vraiment, avec l'aide des partenaires, l'aménagement, le PNUD et autres là, nous avons pu nous-mêmes crier l'alerte pour dire que ça suffit. Il ne peut pas avoir de justice, il peut avoir de droit, sans pourtant qu'on ne puisse aussi réformer l'administration pénitentiaire. Si heureusement, le département était à notre écoute, ou est à notre écoute, eux, a commandité un expert d'administration pénitentiaire, que je pense les conclusions seront prises en compte dans la réforme générale. Donc on peut saluer ça aussi. Maintenant, je voulais faire un petit point sur la réinsertion. Avant de revenir à votre question de programme précis, je pense que nous, praticiens de l'administration pénitentiaire, si la réinsertion échoue, je vous dis, c'est comme si pratiquement nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Parce qu'en ce temps, nous reculons à des années médiévales où la prison était là pour mettre les gens sur les gens, vous voyez, les brimer, n'est-ce pas, les mettre dans des souffrances énormes, sans pour autant qu'au bout de la chaîne, ils puissent avoir une expérience. Et pour nous, depuis un certain temps, nous pensons que ce mode-là de prison a disparu pour laisser place à des prisons écoles, à des prisons formation, à des prisons de réinsertion. C'est pourquoi je me réjouis que le constat est là aujourd'hui. Nous avons failli même dans nos textes, nous avons failli aussi dans nos pensées, de notre façon de changement. Je pense que l'amorce est sur place, qu'ensemble, avec les partenaires des droits de l'homme, avec les partenaires internationaux, nous puissions vraiment aller à une réelle existence des prisons modernes, des prisons dans le sens vraiment de récupérer l'homme et non pas d'aller le sanctionner ou en tout cas de le rejeter. Donc je me réjouis que nous partageons les mêmes objectifs de réinsertion. Ensuite, par rapport à ce problème de réinsertion, comme l'a dit Maître, il y a un vide. Le vide qu'il y a, c'est qu'il y a des entraves énormes, même dans l'application des textes et même des statuts de nos établissements pénitentiaires. Donc la réforme tant attendue pouvait peut-être, en tout cas avec grand espoir, n'est-ce pas, nous faire face au réel problème, n'est-ce pas? Parce que quand les choses ne sont pas définies, quand il y a un vide, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi nous fondons grand espoir, n'est-ce pas, à la réforme qui va venir, pour dire que simplement, lorsque des prisonniers sortent et qu'ils récidivent, non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de récidive zéro, il faut le dire ici dans toutes les prisons, mais quand même, à proportion gardée, que nous puissions être satisfaits d'avoir vraiment corrigé. Parce que le but essentiel de ces prisons-là, c'est vraiment la correction et non la punition. Donc vivement, cette réforme, si elle prendra compte des préoccupations de réinsertion et surtout de correction de la population carcérale.
D'accord.
Et que les centres spécialisés de détention et de réinsertion qui fonctionnent aujourd'hui, nous les voulons ainsi, mais il faut aussi, compte tenu déjà de l'armature judiciaire qui existe, des textes qui existent, n'est-ce pas, imaginez des relais à la détention. Parce que vous voyez, quand des enfants le disent, Maître vient de le dire ici, la loi nous met dans un anglo. Hein, 3 mois de détention préventive, 4 mois de détention préventive pour les délictuels et 3 mois pour les criminels, 6 mois pour les criminels. Et vraiment, en termes de réinsertion, et j'entends par réinsertion formation pédagogique, formation scolaire, il n'y a pas de module conséquent. On fait le pompier, on fait en sorte que les enfants puissent faire quelque chose ou les femmes puissent faire quelque chose. Mais en réalité, il y a un seuil minimum, n'est-ce pas, de présence effective de formation qui est 6 mois statutaire, c'est internationalement connu. Et quand vous n'avez pas la même mise sur ça, difficilement vous pouvez, n'est-ce pas, avoir un programme conséquent et scientifique pour la réinsertion. Et je pense que c'est pourquoi j'avais dit, ou à qui veut l'entendre, que le statut en tant que tel des centres de détention et de l'éducation pour mineurs de Bolé, j'ai dit, n'est pas approprié. Hein? Je ne dis pas que les enfants ne doivent pas aller en prison, même s'ils doivent aller en prison, qu'on leur donne vraiment un canal dans lequel on puisse les réinsérer, parce que c'est vraiment des populations immatures qui ont besoin de notre aide pour se former et pour les éviter à la cyclique Bolé et après la MCA. Ça veut dire que de former, au lieu de former des professionnels de métier, on forme des professionnels de carrière, de bandits de grand chemin.
Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous allons en pause quelques secondes. Ensuite, je vous donne la parole au monsieur El Béchir Singaré pour réagir par rapport aux propos du directeur ou bien pour renforcer les propos du directeur Moussa Sarawi Maïga.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, c'est sur notre page web, sur notre site web, pardon, également, www.studiotamani, en un seul mot.org. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui de la surpopulation carcérale et cette troisième partie est consacrée à la question suivante. Faut-il aujourd'hui reformer la politique carcérale du Mali? Et pour l'occasion, nous avons comme invité Maître Mokhtar Mariko de l'Association malienne des droits de l'homme. Nous avons également Moussa Sarawi Maïga, directeur du centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bolé. Un représentant d'Amnesty International est avec nous, El Béchir Singaré. Et nous avons également un représentant de la Commission nationale des droits de l'homme, Issa Karunga Keïta. Alors, avant d'entamer cette troisième partie qui parle de la possibilité de réformer aujourd'hui le système carcéral du Mali, je donne la parole à monsieur Singaré, El Béchir Singaré d'Amnesty International, pour réagir par rapport toujours à la deuxième au deuxième thème sur les règles de détention et de réinsertion dans les prisons du Mali. Monsieur Singaré.
Bien, merci. Ça peut être même une transition pour la troisième partie. J'aimerais seulement rassurer monsieur Maïga que j'ai eu le privilège quand même de participer à un atelier sur la réforme de la justice. Et lors de cet atelier, il a été beaucoup question des centres de détention. Et la qualité des experts que j'ai vus, et tout ce qui a été dit, je crois que a passé au peigne fin tous les problèmes qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire qu'on a pris en compte tous les problèmes qui sont liés, n'est-ce pas, à l'administration pénitentiaire. Et même les conditions dans lesquelles ils travaillent. Vous voyez ? Donc je crois que si cela aboutit, c'est en cours je crois, si cela aboutit, vraiment, ça va être quand même une bonne chose.
Alors nous serons donc de plein pied, c'est une transition pour la troisième partie. Faut-il aujourd'hui reformer le système carcéral du Mali? Nous allons vous proposer cette première question, cette première réponse, cette tentative de réponse de Cheikh Omar Diallo, politologue, qui nous a fait le plaisir de passer à un de nos débats sur la question.
Il est important que l'on revoie cette politique carcérale nationale afin qu'elle puisse mieux coller aux réalités des enjeux du moment. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de politique carcérale qui soit efficace tant qu'il n'y aura pas une politique judiciaire également qui donne les moyens à la justice de pouvoir, dans des délais raisonnables, juger les gens qui sont en attente de procès. Parce que on se retrouve avec des éléments qui passent 6 mois, 7 mois, pour certains même qui sont même oubliés en prison. Ça c'est incroyable de voir que dans un pays on peut se retrouver avec des détenus qui sont oubliés et dont le procès est repoussé de semaine en semaine, de mois en mois, jusqu'à arriver des fois à des années. Et je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux pour les éléments qui se retrouvent dans ce milieu-là, parce qu'une fois sortis de ce milieu carcéral, s'ils arrivent un jour à en sortir, eh bien, ils retomberont nécessairement dans la délinquance, parce qu'il n'y a aucun moyen d'assurer leur réinsertion une fois sortis. Donc, il faut trouver le moyen de pouvoir conjuguer une politique qui permette, premièrement, d'augmenter le nombre des prisons afin de trouver une solution à la surpopulation et d'écarter les éléments qui sont les plus dangereux de ceux qui ne représentent pas réellement un danger très important pour la société, et dans le même temps trouver les moyens de pouvoir réellement améliorer les conditions de la justice afin qu'elle soit plus rapide dans la gestion des dossiers de justice, et que on ne se retrouve pas avec des gens qui se mélangent alors qu'ils n'ont en réalité pas grand-chose à faire ensemble.
Alors, ma première question s'adresse à monsieur le directeur du centre de détention de rééducation et de réinsertion de Boulé pour mineurs. Monsieur le directeur, est-ce que vous souffrez, vous, à votre niveau, de la surpopulation? Si oui, est-ce qu'il y a beaucoup de détenus qui sont oubliés en attente de leur procès?
Ok, merci beaucoup. J'ai dit que le cas des centres spécialisés de détention pour mineurs, aussi bien que pour femmes, en réalité, sont des cas un peu spécifiques. Je peux vous assurer qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de surpopulation et qu'effectivement, on tient compte de ce qui peut être les catégories, en tout cas des mineurs qui y arrivent. Parce qu'en réalité, au niveau du centre spécialisé de détention et de réinsertion pour les mineurs, il y a bien deux catégories essentielles. Ce qu'on peut appeler les enfants en conflit avec la loi, mais aussi en assistance éducative. Oui, pour répondre un peu, même là, vous voyez, s'il y a des structures appropriées, l'assistance éducative aurait dû être séparée de ce qu'on peut appeler ceux qui ont contracté, en tout cas, des fautes graves. Je l'admets, mais à défaut de trouver d'autres structures aujourd'hui, ce centre-là est polyvalent, il reçoit les enfants en conflit avec la loi, mais aussi ceux qui ne le sont pas, ça veut dire les enfants en assistance éducative. Et dès qu'ils arrivent, il y a bien tout un processus en réalité d'accueil et de soumission à certaines règles les permettant vraiment, par rapport à la faute commise et par rapport à la gravité de l'acte, et que compte tenu aussi de leur intégrité physique et morale qui est immature, n'est-ce pas, on prend soin vraiment de pouvoir vraiment les remodeler, de faire en sorte qu'on tienne compte vraiment de leur âge et aussi de leur motif de placement. Mais je sais qu'en réalité, ce n'est pas partout en République du Mali. Ça, c'est les centres spécialisés dont on peut se réjouir, n'est-ce pas, de cette efficacité-là. Et la détention préventive chez nous, elle est de 3 mois pour les cas délictuels et 6 mois, n'est-ce pas, pour les cas criminels, renouvelables une seule fois. Et nous y tenons parfaitement, et avec la proximité du tribunal pour enfants qui est en réalité à quelque part de chez nous, vraiment nous n'en connaissons pas de grands problèmes par rapport à ça, aussi bien qu'à Boulé femme.
D'accord.
Mais ce qu'on peut regretter, c'est de dire qu'à ce niveau-là, nous avons aussi beaucoup plus de prévenus que de condamnés. Cela est lié en réalité certainement à l'insuffisance de personnel magistrat au niveau du tribunal.
D'accord. Voilà. Alors, Maître Mokhtar Mariko, vous êtes le président de l'Association malienne des droits de l'homme. Aujourd'hui, ces deux centres dont évoquait tout à l'heure le directeur Moussa Sarawi Maïga de la prison du centre de réinsertion pour mineurs de Boulé, ces deux centres-là sont assez encadrés, bien encadrés et bien plus fonctionnels que par exemple la maison centrale d'arrêt de Bamako. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un système qui favorise l'accélération des procès de certains prisonniers qui sont encore détenus et oubliés par la justice?
Je pense que tout ce qui a été dit bien à propos. Mais cependant, il faudrait ne pas oublier ceci. C'est-à-dire que il faudrait que dans notre système judiciaire, qu'on ait un juge de la détention. C'est-à-dire qu'un juge, une fois que l'enquête préliminaire est terminée, que les PV reviennent de la police, de la gendarmerie, qu'il y ait un juge qui regarde bien ces dossiers pour voir qui et qui doivent être envoyés en prison. Vous avez vu l'engorgement des prisons, il y a beaucoup de personnes qui ont été envoyées, qui ont été placées sous mandat de dépôt, et la plupart de ces dossiers vont aboutir à un non-lieu. Donc il y a un problème à ce niveau, il faudrait qu'on s'attaque aux racines du mal. Les procureurs que nous avons ont beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire votre dossier vient, sans examen au fond, on vous envoie en prison. Donc ça, c'est côté, il faut voir, c'est ce qui fait que les prisons sont très souvent engorgées, il y a beaucoup de personnes qui sont envoyées pour rien dans cette prison. Deuxièmement, je vais m'appesantir sur un côté. C'est vrai qu'il y a des pratiques de certains magistrats qui ne font pas honneur à la justice et qui envoient à tout bout de champ les gens en prison. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces magistrats ne sont pas du tout dans les conditions. Je vais vous donner un seul exemple. Vous avez les dossiers du Nord. Il y a trois juges qui étaient chargés d'instruire ces dossiers du Nord. Et ces juges payaient souvent de leur poche les interprètes. Parce que les prévenus arrêtés au nord du Mali, il y en a qui parlaient un arabe qui n'est pas très accessible. Il fallait chercher dans la ville quelqu'un qui parle arabe. Donc c'est les juges qui payaient de sa poche. Donc ça aussi, ça peut être un facteur d'engorgement des prisons. Parce qu'il faut chercher cet interprète. Et entre-temps, le détenu est en train de compter. Secondement, qu'est-ce qu'il faut encore voir? Il faudrait que le Mali revoie sa politique. Le budget qui est affecté au ministère de la Justice est presque insignifiant. Il va falloir qu'on le dise à haute intelligence. Certains magistrats ne font pas bien leur travail, mais le budget qui est alloué à ces ministères pour faire ce travail vraiment est insignifiant. Donc, il va falloir que les autorités maliennes repensent, revoient leur copie en ce qui concerne le ministère de la Justice pour que ce ministère ait un budget conséquent et pour que ces juges soient remis dans de bonnes conditions. Je vais terminer sur ce point en disant qu'effectivement, comme le constat de Diallo, il va falloir qu'on cherche à construire d'autres prisons, qu'on n'ait pas peur du mythe que celui qui construit la prison, ce sera le premier à... Voilà. Donc il faut éviter ça, il faut qu'on construise des prisons. Et comme l'a dit Diallo, il faudrait séparer les prisons. C'est-à-dire que les grands criminels, les terroristes qui viennent d'être relâchés, ils ne devaient pas être dans la même prison qu'un fonctionnaire qui a fait un détournement. Ou bien comme un petit voleur de moutons. Donc il va falloir faire des prisons, les séparer. Et même comme aux États-Unis, qu'on puisse les appeler les prisons de haute sécurité, où les grands bandits sont là-bas. Mais vous faites côtoyer les bandits et des gens qui viennent pour la première fois en prison, et qui est sûr, ces gens vont revenir une fois encore, parce qu'ils vont côtoyer quelqu'un qui va leur faire un lavage de cerveau. Donc, il faudrait vraiment qu'on réponse tout ça.
Merci beaucoup, Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme. Alors, Issa Karunga Keïta, vous êtes le représentant de la Commission nationale des droits de l'homme. Quel est votre avis par rapport à cette possibilité de reformer le système carcéral du Mali?
Voilà, il est faux. Je pense qu'il est indéniable aujourd'hui que nous devons aller vers...
Y a-t-il une possibilité de le faire aujourd'hui?
Il y a beaucoup de possibilités. La preuve en est que le directeur l'a souligné. Nous avons des partenaires régionaux et internationaux qui sont prêts aujourd'hui à nous soutenir pour aller vers ça. Et vous avez vu l'ensemble des organisations de la société civile, des organisations de défense des droits humains, veulent vraiment appuyer le gouvernement dans ce sens-là. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire dans le cadre de la réforme, c'est de mettre l'accent aussi sur l'amélioration vraiment des conditions de travail des agents du personnel, mais aussi il faut la délocalisation de certains centres de détention tels que la maison centrale d'arrêt de Bamako, la prison de Kangaba
en plein centre-ville.
Voilà, imaginez un peu le problème que nous avons eu la fois passée avec l'évasion d'un détenu, la psychose que ça a créé au sein de la population. Et je voudrais aussi que nous essayions dans la réforme de prendre en compte les engagements pris par notre pays, le Mali, et sur le plan international.
D'accord. Et merci beaucoup, voilà. Monsieur Keïta. Nous allons donner la dernière parole à Monsieur le directeur Moussa Sarawi Maïga, directeur du centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bolé. Alors, une lueur d'espoir. Dites-nous quelques mots d'espoir par rapport aux jeunes détenus que vous avez dans votre centre.
Je pense que, en tant que père de famille et pratiquant professionnel, on ne peut avoir que de l'espoir quand il s'agit réellement de la prise en charge de ces mineurs-là en placement ou détenus. Dans tous les cas, avec la réforme qui est en cours et avec la volonté politique, même au niveau des structures aujourd'hui, la réforme, nous la voulons vraiment générale. C'est-à-dire qu'elle va concerner ce qu'on peut appeler les moyens financiers, les moyens logistiques, mais elle va aussi concerner le statut, comme vient de le dire Maître Madiko, des différentes de prisons.
Merci beaucoup.
Et ça va aussi concerner le recrutement du personnel et la prise en charge du personnel.
Merci beaucoup, M. Maïga. Merci à tout le monde. C'est la fin de cette émission réalisée par Ousmane Diadié Touré et son assistante, Rokia, la jeune Rokia. Sédou Mbo était à la technique. Je suis Famoussa Sidibé. À demain pour un autre débat.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane
Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou de Maoune.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.